Inter, le 6-9 du week-end.
Votre main verte, bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Alain, je ne sais pas ce que vous avez fait à votre peau, mais vous semblez
rajeuni. Vous avez remarqué, je teste un anti-ride, les résultats sont
écoutez, pourquoi pas, très bien, on va parler de ça au café si vous voulez après, à la machine tout à l'heure. En Australie, on va y retourner avec vous Alain Baraton, en Australie il s'en est fallu de peu pour que des arbres rarissimes disparaissent à jamais dans les flammes.
Oui, et ce grâce aux autorités du pays qui ont déployé les grands moyens pour asperger jour et nuit une forêt préhistorique. Cette opération a été menée discrètement dans un endroit tenu secret, l'objectif étant de sauver les pins de Volémie, des arbres vivants dans un canyon à environ 150 km de Sydney. Si cette action fut menée vraiment secrètement, c'est pour ne pas transformer l'endroit en un site pour touristes et détruire une végétation unique au monde.
Et pourquoi ce pin de Volémie. Ce pin de Volémie est-il exceptionnel?
Petite histoire, en 1994, un garde forestier du nom de David Noble découvre au fond d'une vallée un végétal qu'il ne parvient pas à identifier et il s'en étonne. Il revient avec ses livres, ses documents, il prélève quelques échantillons, rien à faire, pas moyen pour ce spécialiste de donner un nom à cette plante. Très vite, il contacte les botanistes les plus compétents qui, après examen d'une feuille, pensent qu'il s'agit d'une fougère. Mais quand David Noble leur dit que c'est un arbre et qu'il atteint 40 mètres de hauteur, ils ont du mal à le croire.
C'est là que les scientifiques vont se rendre sur place et qu'ils vont découvrir une petite centaine de spécimens.
Et oui, dont certains sont âgés de 1000 ans. Alors c'est une espèce d'arbre, pardonnez-moi, qui serait apparue sur Terre il y a près de 200 millions d'années et sans que l'on sache pourquoi elle a totalement disparu de la surface de la planète il y a plusieurs millions d'années, sauf...
On va vous apporter un verre de thé ou une tasse de thé.
C'est l'effet secondaire de l'antiride.
Oui, peut-être. J'en ai peut-être avalé. C'est passé. Sauf que dans cette région du monde, on ne sait pas pourquoi, les arbres ont vécu tranquillement et cachés jusqu'à ce jour de 1994. Alors, c'est pour éviter les vols et les dégradations, comme je vous le disais, que les botanistes décident de conserver le lieu secret. Les arbres sont baptisés Volémia, du nom de l'endroit où il pousse, le parc national Volémie, et Nobilis, en hommage à son découvreur David Noble. Depuis leur découverte, ces conifères, ces fossiles vivants, devrais-je même dire, sont protégés par la loi et par les hommes.
Alors les plus hauts de ces arbres, les Volémia Nobilis, ils se nomment King Billy. Pourquoi?
Et oui, il a été, parce qu'il s'agit d'un seul exemplaire, il a ainsi été nommé car la toute première équipe de scientifiques à venir sur place est arrivée dans un hélicoptère piloté par un homme qui s'appelait Bill. Tout simplement, notre arbre vit toujours et c'est heureux grâce à d'autres hommes venus eux aussi pour les sauver en hélicoptère.
À présent, vos conseils Alain Baraton et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. On va commencer avec Jérémy qui souhaiterait quelques conseils à propos des filles de l'air. Alors vous allez nous expliquer ce que sont en botanique les filles de l'air. Il précise que cela fait un peu plus d'un an qu'il entretient des têtes de pieuvre. Oui. Là encore, ça demande explication. Je n'ai jamais réussi, dit-il, à les faire fleurir.
Alors les filles de l'air, c'est ainsi que l'on nomme des plantes de la famille des Tillandsia. Tillandsia, ce sont des plantes sont vraiment de la famille des Broméliacées, les mêmes que les ananas. En fait, ce sont des végétaux, du moins certaines variétés comme les têtes de pieuvre, qui s'accrochent là où elles le peuvent, sur des fils téléphoniques, un petit peu partout, et qui développent des feuilles, un petit peu comme les tentacules. Ce sont des plantes qui vivent hors de la terre, hors du sol. Ce sont des plantes qui ont des racines extérieures qui n'absorbent pas l'eau de manière naturelle, mais uniquement l'eau par vaporisation. Donc ce sont des végétaux qui sont un petit peu complexes. C'est joli, c'est agréable, mais pour les faire fleurir, c'est une autre affaire. Parce que la plante, il y a un terme même botanique qui se dit qu'elle est, je crois, monocarpique, à savoir qu'elle fleurit une fois dans sa vie, et une fois qu'elle a fleuri, terminée, elle dégénère et elle meurt. Alors comment faire pour la faire fleurir? Eh bien tout simplement, la mettre dans un environnement suffisamment humide, ensoleillé, attention quand même pas trop de soleil direct, toujours un taux d'humidité très fort, mais il y a un petit truc que je vous donne. Il y a les pommes qui dégagent, comme vous le savez, de l'éthylène. Mmh. Eh bien vous avez un Tillandsia, vous mettez en dessous une pomme, je vous parie que 15 jours plus tard, la plante est fleurie.
Les bons tuyaux d'Alain Baraton, à essayer, on essaiera ça.
Une question de... Patrice et Martin est admiratif de ce... conseil.
Je vous assure, je veux bien essayer.
Question de Nathaline à propos de son cactus. Il pousse à une vitesse incroyable, nous dit Nathaline, mais je vais devoir le rempoter. Faut-il utiliser un terreau spécial?
Il faut un terreau qui ne soit pas trop riche pour éviter qu'il se développe trop rapidement, parce que le cacté n'est pas fait pour se développer de manière anarchique. C'est une plante également qui n'est pas facile à manipuler. Un petit conseil, quand vous voulez d'ailleurs.
Elle précise que c'est un cactus candélabre, donc avec plusieurs flèches.
Bon, le candélabre, c'est un peu le cactus qu'on voit dans les westerns, pour faire très simple. Il y a un truc tout bête, quand on veut dépoter des cactés, c'est de prendre un journal, de le plier et de s'en servir comme une grosse pince. Ça évite ainsi de mettre des épines dans les doigts. Petit conseil également, il est pratiquement impossible de rempoter un cactus sans avoir une épine. Un deuxième truc, Patricia, je sais que vous en rêvez d'envie, vous en mourrez d'envie. Eh bien, quand on a des épines de cactus sur le doigt, il suffit de mettre le bon vieux scotch, le ruban
adhésif.
Vous le mettez, vous le retirez, eh bien, les épines vont suivre avec.
Et la peau avec.
Oui, donc, peut-être, mais ça, c'est quand même mieux que les épines. Mais donc, un engrais tout à fait adapté au cactus, on limite l'arrosage, mais un cactus n'est rempoté qu'au bout de quelques années seulement. Il se passe vraiment de tout rempotage de longues années.
Question de Marie-Laure. Que faire des bulbes de jacinthe lorsqu'elles sont fanées? Faut-il tout de même les planter dans le jardin avec l'espoir qu'elles refleurissent, ou bien est-ce qu'il faut les mettre au compost?
Non, je les mettrai dans le jardin, mais en sachant qu'elles redonneront l'année suivante des fleurs décevantes, beaucoup plus petites, aux couleurs plus fades, qu'elles vont redevenir un petit peu botaniques. Mais les jacinthes sont tellement aujourd'hui fabriquées, travaillées, dopées, que pour la refaire fleurir chez soi l'an dernier, c'est même pas être jardinier ou avoir la main verte, c'est être, s'appeler MacGyver. Ce sont des plantes pratiquement impossibles à conserver.
Les bulbes de jacinthe sont dopés, dites-vous?
Oui,
c'est récent, ça, ou
oui,
non, parce on charge un peu la mule?
Ouais, un petit peu, quelque peu, bien sûr. Ce sont des plantes qui sont, regardez, elles ont toujours le même calibre, elles sont toujours bien grosses, et la plante se dégénère à une vitesse grand V. Quand on vend un bulbe de jacinthe, l'objectif est d'offrir une fleur immédiate de qualité, et la plante se dégrade très vite. L'avantage dans le jardin, la plante sera beaucoup moins belle, elle donnera quelques petites taches de couleur, mais à mettre dans un sous-bois en arrière-plan, certainement pas dans un massif.
Allez, un dernier conseil, un conseil de lecture. Ou une balade pour la journée.
Un très joli conseil de lecture. Comprendre les plantes et les arbres. Forme, diversité, stratégie de survie. Tout est dit dans cet ouvrage écrit sous la direction de Stephen Blackmore. Un ouvrage savant, une encyclopédie vraiment merveilleusement faite. 330 pages. On apprend tout sur les arbres, sur leurs mécanismes, etc. Et c'est publié par Delachaux et Niesley.
C'était la main verte et les bons conseils d'Alain Baraton.
Et le chat qui est venu avec lui dans la gorge, et je vous prie de m'en excuser.
Et le chat est reparti aussi vite. Merci Alain Baraton et à demain.